Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Marc-André Leclerc.
Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
Savoir et comprendre, Marc-André Leclerc.
Allons retrouver Thomas Mulcair, ancien chef du NPD, ancien ministre provincial, également mon collègue analyste politique à la Joute et au chroniqueur au Journal de Montréal. Plusieurs sujets à parler, bien sûr, avec mon ami Tom. C'est la grosse nouvelle, hein, quand même, ce matin, là, de l'arrivée de Pascal Derry à la coalition Avenir Québec. On l'a vu dans les dernières semaines, comment François Legault, son entourage, sont allés chercher Bernard Drainville, Caroline Saint-Hilaire, Sonia Bélanger, une professionnelle du réseau de la santé. Également, Yves Montigny du côté de la Côte-Nord, du côté de Baie-Comeau, dans le beau comté de René Lévesque. Donc, on a vu que la CAQ a mis beaucoup d'efforts d'aller chercher des candidatures qu'on pourrait inscrire dans le giron nationaliste. C'est très hâte d'entendre Tom. Bon matin, Thomas.
Hey, salut Marc-André.
Thomas, ce matin, on a appris que Pascal Derry, j'avais eu écho de ça hier soir, ancienne candidate conservatrice, ancienne journaliste du côté de TVA, également une ancienne là, de l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, également oui. Actuellement porte-parole de Air Canada. Hein, c'est elle qui était aux côtés de Michael Russo quand M. Russo nous a dit qu'il pouvait être né vivre là, à Montréal. Je connais bien Mme Derry parce qu'en 2015, là, j'ai aidé à son recrutement là, en politique fédérale. Oui. Je connais bien Pascal, une habituée des médias. Comment tu vois cette arrivée-là? Plusieurs personnes, plusieurs analystes, on en a parlé ensemble à la joute, disant que M. Legault avait besoin d'une fédéraliste. Mme Derry, je pense qu'elle est une conservatrice fédéraliste. Comment tu vois l'entrée, l'arrivée de Mme Derry là, dans Repentigny pour la CAQ?
Ben, d'abord, parlons de Mme Derry. C'est une excellente pêche pour la CAQ, point à la ligne. C'est quelqu'un qui sait parler devant une caméra, qui est articulé, qui a beaucoup d'entre-gens, beaucoup d'expérience. Alors, bravo, c'est une très bonne pêche pour eux autres. Pour ce qui est d'avoir des fédéralistes crédibles, je pense que Éric Girard, qui est le ministre des Finances, n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit sur le fait d'être fédéraliste, mais ça vient quand même, après le recrutement de Caroline Saint-Hilaire, souverainiste, convaincue, convaincante, irréductible, qui ne changerait jamais d'avis là-dessus. Et évidemment, Bernard Drainville, idem. C'est un gars qui a toujours été, il est super souverainiste, il ne changerait pas d'idée. Ce qui était gênant, c'était leurs deux conférences de presse, évidemment, et c'est vrai qu'on en a parlé, mais ça vaut la peine de rappeler qu'il y avait une espèce de auto-da-fé politique. Il y avait ces deux souverainistes convaincus, sûrs d'eux-mêmes, qui n'auraient jamais changé le fusil d'épaule, qui étaient obligés de hisser les épaules devant Legault et dire « Ah ben, à bien y penser, je suis peut-être pas si souverainiste que ça, oui. » Et alors, il n'y a personne qui les croyait, ce qui rendait le problème encore plus aigu. Donc, recruter une grosse pointure comme Pascal Derry, tant mieux, oui. En plus, c'est une femme qui, idéologiquement, tu fais référence à l'Institut économique de Montréal, donc c'est ce qu'on appelle un think tank, hein, un organisme de réflexion, mais de droite, vraiment à droite, parfois manquant totalement d'objectivité. Et donc, tant mieux pour eux autres s'ils peuvent mettre quelqu'un de l'avant. Rappelons que la dernière fois, elle était pressentie comme candidate, et c'est Robert Libman qui avait décidé de la contester pour l'investiture conservatrice.
Je me rappelle de ça, j'étais au cœur de ces
Elle a perdu contre Libman. Ils l'ont présenté de mémoire dans le centre du Québec, quelque part. Elle a été massacrée aux urnes. Et Libman, évidemment, n'a jamais gagné. Je pense que Pascal Derry aurait gagné.
Je pense aussi.
À Montréal, pour les conservateurs, ça aurait été un résultat absolument exceptionnel. Donc, en plus, c'est quelqu'un qui fait partie de la communauté juive, qui n'est pas surreprésenté au sein de la CAQ. Donc, côté minorité, côté idéologie, côté entre gens, capacité devant une caméra, capacité de mener des grandes réflexions, est assez évident pour moi qu'elle se dirige direct au Conseil des ministres de Legault si jamais la CAQ remportait les élections du mois d'octobre.
Mais là, ce qui arrive, là, Tom, présentement, là, puis tu sais, si t'es un bon backbencher, là, un bon Québécois, là, de la CAQ, là, tu sais, un député actuellement, là, qui longe les rideaux à l'Assemblée nationale, qui est au bout, là, en face au président.
Assis en dessous de l'horloge.
En dessous de l'horloge. Je connais bien le Salon Bleu. Effectivement. Donc, mais là, quand tu vois Bernard Drinville, Caroline Saint-Hilaire, Pascal Derry, Yves Montigny sur la Côte-Nord, Sonia Bélanger du Réseau de la Santé, là, dans le fond, M. Legault, il est en train de nous dire que dans les 50 députés présentement qui ne sont pas ministres, il n'y en a aucun qui est ministrable?
Oh, que tu montres beaucoup d'expérience avec cette question-là. Et oui, c'est exactement ce que doivent penser ceux qui se disaient « Moi, je suis juste au seuil de la porte. Prochain remaniement, c'est certain que j'embarque dans le sein des saints. » Et oui, Pascal Derry s'en va au Conseil des ministres si jamais la CAQ l'emporte. Oui. C'est drôle. Autant je suis certain pour elle, autant je dis qu'ils ont des bonnes chances les deux, mais je suis loin d'être certain que Drinville et Saint-Hilaire vont arriver automatiquement au Conseil des ministres.
Ah oui?
Et
d'ailleurs,
c'est le genre de choses qui ne se promet pas. Pour la raison que tu donnes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prétendants. En plus, il faut quand même regarder la feuille de route. Est-ce que l'un ou l'autre va y aller? Presque certainement. Est-ce que les deux sont garantis? À mon point de vue, non.
Mais tu touches un bon point sur... Je pense que Mme Derry s'en va dans Repentigny. Là. Lise Lavallée qui se représente pas avait gagné, je pense, avec 49%. Là. Donc, à partir de ce moment-là, Mme Derry ne prend pas un grand risque. Là.
Il faudrait être bougrement malchanceux avec un score comme ça la dernière fois, puis la solidité quand même des appuis de la CAQ. Et disons-le clairement, pas juste la division, l'atomisation, la fragmentation de l'opposition à la CAQ. Parce que c'est une tempête parfaite pour Legault. Qui, rappelons-le, tout comme Doug Ford, il est dans les 40% dans les sondages. Il n'est pas à 60% des sondages. Au contraire, 60% des Québécois ne veulent pas de François Legault et de la CAQ. Mais qu'est-ce qui arrive avec ce 60%? Bien, il est presque parfaitement divisé selon l'endroit dans la province, Montréal, Québec. Ça change un petit peu, mais disons que c'est presque parfaitement divisé entre l'opposition officielle libérale, évidemment, le Québec solidaire qui ne cesse d'étonner avec la solidité de ce qu'ils mettent sur la table dans cette période préélectorale. Parti québécois qui est capote quand même, mais qui va aller chercher un 10-15% du vote, peu importe, et le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Oh, puis il faut quand même ajouter qu'il y a deux sous-groupes anglophones en protestation contre Dominique Anglade, parce qu'il y a des anglophones à Montréal qui disent qu'elle n'a pas tenu tête assez à Legault sur le projet de loi 96. Alors, Madame Anglade est dans une situation où elle peut performer et dire aux gens « Oui, écoutez, oui, il y a des gens qui trouvent que j'ai pas assez appuyé la communauté anglophone. Il y en a d'autres qui disent que je suis trop enfiodé. Mais la réalité, c'est que je représente quand même une vision québécoise moyenne. Donc, elle peut quand même pousser ça. »
Mais ce matin, il y a quand même une bonne nouvelle, là, entre guillemets, pour M. Duhaime, parce que dans Chute de la Chaudière, Marc Picard, hein, l'ancien ADQIS avec Mario Dumont, ne se représente pas. Et ce qu'on entend, c'est que l'annonce se fait tard. On est à 90 jours du vote. Se fait tard parce qu'on ne voulait pas laisser de temps à M. Duhaime de faire du recrutement. Parce que tu sais, tout ce qui est Chute de la Chaudière, Beauce-Nord, Beauce-Sud, Chauveau, ça, c'est le terreau fertile à M. Duhaime, là.
Oui, il va falloir qu'il joue ça prudemment, parce que à mon point de vue, Marc Picard, juste pour parler de la personne un peu, un soldat, un gars croyant, j'ai pu siéger avec lui parce qu'il faisait partie de la petite équipe quand Mario Dumont a cessé d'être seul à l'Assemblée nationale. Marc Picard était un des premiers à arriver. Ça, c'est le genre de gars qui a servi admirablement dans l'arrière-scène, mais très aimé de son monde, puis il avançait en âge et en expérience, puis il a dit, bon, je vais accrocher mes patins, ce qui est tout à fait correct, et je lui souhaite une longue, heureuse vie de retraite, parce que c'est une très bonne personne, en plus d'être un très bon politicien et représentant de sa région. Mais ça ouvre, mais il va falloir qu'il répète pas la même erreur. Là, tout d'un coup, il avait recruté Anne Casabonne à Montréal, il l'a présentée dans Marguerite Duville, puis là, tout d'un coup, il décide, il va la placer dans un comté proche de Québec, puis oups, forte réaction localement, on dit, hey, bop, 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 bop. On appuie le nouveau parti d'Éric Duhaime, mais c'est pas vrai que lui, il va commencer à faire comme les vieux partis, argument et plainte à propos de laquelle il est particulièrement sensible. On veut pas des gens parachutés, boup, tout d'un coup, Anne Casabonne était pas candidate là-bas. S'il répète l'erreur, puis il essaie d'envoyer Anne Casabonne là, achète la Chaudière, bonne chance avec ça. Moi, je pense que ça risque d'être vraiment un très gros problème pour lui.
Non, effectivement, puis je pense que M. Duhaime va prendre quelqu'un du coin, là, justement. Je pense
il faut
renoncé, justement, lui, à se présenter sur la rive sud, qui, selon moi, aurait été un meilleur terrain pour lui. Il aurait pu se présenter dans Beauce-Nord, Beauce-Sud.
Il va gagner dans Chauveau. Il va gagner dans Chauveau.
Je pense que ça aurait été plus facile dans Beauce-Nord, Beauce-Sud que dans
Chauveau. Oui, mais quand on est chef de parti, puis on veut attirer des gens, puis on veut leur montrer à se battre, on prend pas le truc le plus facile. On se dit, OK, moi, je suis dans la grande région de la ville de Québec. Moi, je prends Chauveau, parce que le caquiste qui était là a connu des ratés, on peut le dire. Et là, il dit, moi, je veux montrer que j'ai assez de confiance de confronter la CAQ sur son terrain. Et pas aller juste m'occuper du terrain très bleu au sud du Québec. C'est quand même une situation qui commande une décision de chef. Et je pense que Duhaime a cette étoffe-là. Il est étonnant, Duhaime. Mais il va se faire rattraper parce qu'il promet ce qu'il dit. Quand il essaie de faire des clins d'œil à la communauté anglophone à Montréal, parce que j'écoute ce qu'il dit à la radio anglaise à Montréal, ça tient pas la route. C'est un vendeur d'huile de serpent. Il essaie de les miroiter des changements, loi 96, loi 21, ils en passent. Mais ça tient pas la route. Et il dirait pas la même chose, justement, à Chute de la Chaudière. Alors, j'ai bien hâte de voir quel Duhaime va se présenter aux élections.
Également, Tom, un autre combat là, qu'on va suivre, c'est du côté des îles de la Madeleine, là, parce que Jonathan Lapierre, qui est le maire des îles, va se présenter contre Joël Arsenault, le député péquiste, et ça va être un match revanche, hein, parce qu'en 2013, si ma mémoire est bonne, les deux se sont présentés, étaient des adversaires à la mairie, et là, les deux vont se retrouver. Donc, on voit vraiment que la CAQ, là, T'sais, on dit tout le temps que François Legault, il veut pas, ou son entourage, peut-être son chef de cabinet, Martin Kossian, ne veut pas avoir 100 députés, mais vraiment, ils mettent la gomme pour vraiment anéantir, entre autres, le Parti québécois. Là.
Oh oui, puis Québec solidaire, tant qu'à y être.
Oui, avec Mme Saint-Hilaire
Caroline
à Sherbrooke.
Saint-Hilaire dans Sherbrooke, c'est un bel exemple de ça. Donc, eux, ils livrent une bataille politique. Mais parfois, même avec une armée très forte, si on disperse trop les troupes, puis une chose qu'il faut pas oublier, que la CAQ a toutes sortes de compétences. Tu viens de mentionner Martin Koskinen, c'est un très bel exemple. C'est un élément extraordinairement important dans l'équipe autour de M. Legault. Mais la CAQ n'a pas beaucoup d'expérience et n'est pas très profond avec son équipe terrain. Ils ont réussi à battre Pierre Nantel dans Marie-Victorin en faisant quoi? En arrachant tout ce qui existait à travers le Québec, en le mettant là pour veiller à gagner ce siège pour la CAQ, et ils ont réussi leur coup. Mais lors d'une élection générale, je m'excuse, il va avoir ces troupes-là vont être réparties à travers le Québec, et ils n'ont pas une équipe très profonde. Parti libéral, on dirait ce qu'on veut, mais il y a une historique, il y a des listes de bénévoles, même dans des places où on va avoir beaucoup plus de chances de voir la CAQ réélue. Benoît Charrette, là, qui va se présenter à nouveau dans le coin de Montagne-Saint-Eustache par là-bas, il va être dur à battre, mais les libéraux ont un candidat, un professeur, chef syndical, et le gars va pouvoir compter sur une très longue série de bénévoles sur son Rolodex. Ça va quand même compter pour beaucoup lors de l'organisation et l'exécution de la campagne.
Tom, un autre sujet qui fait beaucoup jaser présentement, c'est cette décision-là du CRTC de demander là, des excuses là, à Radio-Canada sur l'utilisation du mot en haine dans une chronique un peu plus tôt cette année. Et là, on voit vraiment les ténors, là, les têtes d'affiche de Radio-Canada, Patrice Roy, Céline Galipeau, demander là, justement là, à leur patron, à leur dirigeant de se tenir debout et de ne pas là, formuler là, directement ou indirectement des excuses au CRTC. Est-ce que le CRTC, Tom, avec ton expérience du fédéral, est en train de... Est-ce qu'on existe peut-être un précédent dans le contexte également du projet de loi C-11 qui donne encore plus de pouvoir au CRTC pour contrôler le contenu? Comment tu vois, et selon toi, est-ce que Radio-Canada devrait s'excuser comme le demande le CRTC?
Ben, commençons avec ta première question. C11 va commencer à battre de l'aile si c'est vers ça que ça mène. Mm-hmm. Mais je prendrais un tout petit peu de recul et je dirais que ce cas va exposer au grand jour une différence profonde de mentalité entre le Québec et le reste du Canada. Parce que à Toronto, les excuses auraient déjà été émises si ça avait été fait à CBC.
Bon point.
Et ici, au Québec, les gens disent « à quoi on joue ?» Personnellement, je n'utiliserai jamais ce mot en haine parce que je le connais et je le sais jusqu'à quel point il est blessant. Mais rapportons-nous à Verushka, lieutenant Duval, qui a utilisé dans le cadre d'un cours universitaire à l'Université d'Ottawa ce mot. On voit la tollée que ça a créé parmi certains étudiants. Et voilà que même le Québec s'est doté d'un projet de loi sur les universités pour essayer de dire qu'il faut avoir la liberté d'expression. Alors, plutôt que de prôner la liberté d'expression, le CRTC est en train de s'ériger en maître à penser, en train de dire non, mais tel mot, on peut pas, puis là, tu vas t'excuser d'avoir dit tel mot. Moi, je pense que c'est un débat qui est mûr pour avoir lieu, qui va exposer des profondes différences. Ça m'étonnerait énormément que Radio-Canada s'excuse. Et d'ailleurs, je le dis souvent, parce que ce qu'on est en train de faire là, toi et moi, Marc-André, je le fais avec Richard Martineau et Jean-François Lisée à longueur d'année, puis je m'amuse à utiliser des mots comme bullshitter, puis des mots pas mal plus fort à l'occasion, parce que je dis, ah, mais c'est très bien, nous, on est dans l'Internet, on est en ligne, on est numérique, on n'est pas assujetti au CRTC. Et c'est cette liberté-là qui me fait sourire, parce que effectivement, les débats qu'on a, tu sais, c'est WWF, hein, on s'arrache la tête, puis les mots un peu plus forts que d'autres s'enlignent. Et moi, j'aime bien une société où on peut avoir ces débats-là. Mais ce fameux mot en haine, on sait que les gens savaient ce qu'ils faisaient en le répétant, parce qu'ils ne l'ont pas juste dit une fois, en ondes. C'était une sorte de... Ils lançaient le défi, essayer de nous en empêcher. Et on va voir où ça mène. Moi, j'ai l'impression qu'on s'enligne pour une incroyable prise de tête entre Radio-Can et le CRTC, et entre les deux, j'ai vu Jean Charest se mettre le nez hier. Il a envoyé un tweet où il a blasté Justin Trudeau de se cacher dans ce dossier-là. C'était provocateur. Et j'ai bien hâte de voir si Trudeau va avoir le guts de se prononcer.
Penses-tu vraiment que Justin Trudeau, Tom, va s'immiscer là-dedans? Moi, je pense vraiment pas. Je pense qu'il va laisser passer la parade.
S'il avait un bon chef de cabinet comme toi, il laisserait passer la parade. Mais c'est son monde, c'est la base de son idéologie et de son électorat dans le GTA, le Greater Toronto Area, une cinquantaine de sièges. Eux, ils s'attendent à ce que le premier ministre prenne part là-dedans, surtout si Radio-Canada, et c'est ce que je prédis, refuse de s'excuser.
Mais parce que aussi c'est dans un contexte là, tu sais, je veux dire dans la chronique là dont on parle depuis tout à l'heure, dans cette chronique là, oui, ils ont utilisé le mot haine à plusieurs reprises, mais il parlait d'un ouvrage là, tu sais, c'était pas
c'est toujours, d'ailleurs, c'est toujours le même ouvrage quand c'est pas l'autre, comment le faire l'amour à un haine sans se fatiguer. Donc c'est toujours ou presque toujours, personne n'a pris le micro pour dire un tel c'est un fichu de haine. Non, c'est jamais ça dont il s'agit. Mais la sensibilité est pas tout à fait la même, mais quasiment. Et l'effet dans la réaction. Mais ce qui m'étonne, c'est que si justement le CRTC commence là à exiger des excuses, peu importe de qui, une radio privée ou une société d'État, pour un truc que eux ils jugent, puis c'est allé très vite ce truc-là, puis c'est allé directement à l'ultime sanction, des excuses publiques. Allô. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on va assister à un débat qui ne fait que commencer. On est début juillet. Est-ce qu'on a le droit de dire que le monde dort un peu? Mais, il prend un peu de soleil. Non, mais j'ai l'impression que ce truc-là va faire shaker les fondations. C'est pour ça que c'était assez futé, bien que c'est dangereux pour lui, pour sa définition de lui-même, pour Jean Charest de jouer ce jeu-là. Par contre, c'est assez intéressant côté politique et on va voir si Trudeau finit par faire quelque chose. Je pense qu'il va être obligé d'en parler tôt ou tard.
Oui, effectivement, Tom, tu as raison. Puis je pense que c'est un dossier qu'on va suivre dans les prochains jours. Puis on va sans doute s'en reparler. Thomas Mulcair, un gros merci, Tom. Puis on se reparle demain matin.
Bye-bye.